Merci Fred, tu es généreux. Merci Mélodie et merci à la louange. C'était, on a prié vraiment pour tout à l'heure pour vraiment qu'il y ait l'onction. Et je trouve qu'il y a l'onction quoi ce matin. On va prier. On va prier pour rester dans cette onction. Seigneur, merci de bénir ce temps qu'on va passer encore ensemble avec toi, Seigneur Jésus. Et merci de parler au cœur. Amen. Amen. Voilà. Alors ce matin, je vais parler de... Moi, je l'ai appelé comme ça, mais vous allez voir au début, c'est moins évident. Qu'as-tu fait de ton frère ? Alors, depuis pas mal de temps, le Seigneur me parle sur l'autre, sur le prochain. Alors je pense que quand le Seigneur parle à quelqu'un, ben, il veut aussi parler aux autres. Donc je me permets de vous partager cela. Je pense que c'est pour nous, chacun individuellement. Et je pense que c'est pour aussi un message pour l'Église. Le Seigneur veut rappeler des fondamentaux. Voilà. Alors ce matin, je vais l'associer à cette parabole qu'on va lire, mais d'abord, on va vraiment, laissons-nous toucher. Ne dites pas, voilà, soyons pas familiers. Vraiment, laissons-nous toucher, que laissons nos cœurs ouverts, et puis peut-être que Dieu peut faire des miracles. Voilà. Donc Matthieu 25, 31 à 46. Marche très bien. Oui, on a le temps. Voilà. Alors, je vais lire le début. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Dans d'autres versions, il y a les chèvres. Bon, c'est pareil. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. » Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Quand avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'as vu étranger, t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand oh là là, c'est difficile. Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Et pareil, il va répéter, car vous avez eu faim, j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire, etc. etc. Et là aussi, les gens vont répondre, Seigneur, quand t'avons-nous vu ayant faim ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes ces fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Ça va, ça plombe bien. Alors, vous allez voir, c'est pas des fois des choses veulent dire peut-être d'autres choses. Alors cette parabole, dans le contexte de Matthieu, elle fait suite à celle des vierges folles, vous savez, les sages et les folles, celles qui prennent de l'huile, celles qui l'oublient. Juste après celle des talents, hein, remis, bien ou mal utilisés. Et puis il y a celle-ci. Alors ce texte, souvent, très souvent, on l'a utilisé pour parler de jugement, parce que dans cette parabole, ben, il y a quand même une séparation, et donc il y a quand même séparation et jugement. Le Seigneur raconte cette histoire afin que ses auditeurs, cette histoire de jugement, afin que tous soient bien à l'écoute. Hein ? Il y a une gravité dans ce sujet, et donc vraiment, il veut qu'on écoute. Et souvent, et c'est peut-être pédagogique de la part du Seigneur, souvent, quand le salut est en jeu, on va dire, on n'est plus à l'écoute. On ne sait jamais. Hein ? Voilà, il use de pédagogie. Alors, si on prend le texte à la lettre, on a imaginé quoi ? Ben, un jugement dernier, hein, au cours duquel le Seigneur séparerait les bons des méchants, si on le prend juste comme ça. Mais déjà, on ne peut pas le prendre comme ça, parce que ça va à l'encontre de l'évangile. Et puis, il y a un autre point qui fait qu'on ne peut pas le prendre comme cela, parce que vous remarquerez que les justes et les injustes, les deux, ils posent une question au Seigneur. Ils ne savent même pas quand ils l'ont fait. Donc, ça ne parle pas de salut ou de pas de salut, ça parle vraiment d'autre chose. C'est vraiment le Seigneur qui veut attirer l'attention sur quelque chose. C'est ce qu'on va voir ce matin. Cette histoire, ce n'est pas pour raconter comment se déroulera le jugement dernier, mais c'est un message qui veut être enseigné. Hein. Donc, et ce message fait le tri entre les brebis et les boucs. Voilà. Moi, je pense que cette histoire, paradoxalement, et je crois que c'est le cœur du message, elle parle au contraire de la générosité du cœur. Elle parle d'actions que nous manifestons ou que nous ne manifestons pas, en tout cas pas assez envers les autres. C'est ça le cœur. Hein ? Le message de cette parabole, il est contenu dans le verset 40. C'est une parole du roi introduite par l'expression « En vérité, je vous le déclare ». Chaque fois que la parole de Dieu utilise le Seigneur Jésus, mais pas que, aussi dans l'Ancien Testament, « En vérité, je vous le déclare », on doit ouvrir les oreilles. Parce que ce qu'il va nous dire est important et même fondamental. Et donc, c'est là qu'on va trouver le thème de la parabole. Et le message est simple. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Jésus, le Seigneur, affirme l'identité, le lien entre lui-même et le prochain. Donc, entre Dieu et notre prochain. Hein ? Le Seigneur est en train de nous dire que pour lui, chaque être humain, c'est aussi important que Dieu lui-même. Chaque être humain est aussi important que Dieu lui-même. Bien sûr, ce n'est pas la réalité, comprenez bien mon propos, mais Dieu veut voir les choses ainsi. C'est là, c'est ce qu'il nous dit. Pour lui, tout être humain est aussi important que son fils. Hein ? Il veut qu'on prenne conscience que le frère, le prochain, est aussi important que Dieu. C'est quand même, c'est pas rien. Alors pourquoi ? Pourquoi il veut qu'on prenne conscience de ça, le Seigneur ? Vous pouvez répondre, hein, si vous avez une idée. Bon. C'est ma réponse, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais je crois que c'est pour que la vie chrétienne, ne soit pas désincarnée. La vie chrétienne, ce n'est pas un ensemble d'idées, c'est une pratique. On n'est pas des êtres juste comme ça. On dit, ah là là, c'est super, le Seigneur a dit ça, c'est génial. Non, ce n'est pas désincarné. C'est une relation avec Dieu, mais l'aboutissement de cette relation, c'est quoi ? C'est le prochain. Alors, Dieu veut qu'on prenne conscience, encore une fois, que l'être humain est aussi important que Dieu, pour que l'être humain ne soit pas sacrifié sur l'autel des idées, des doctrines, des dogmes, des principes. Parce que l'homme religieux, et on est tous des hommes religieux, n'oubliez jamais ça, on est tous des hommes religieux, parce que je vous rappelle quand même un petit détail, on est tous des pécheurs, accessoirement, et le pire du pécheur, c'est quoi ? C'est l'esprit religieux. C'est même son ADN. C'est l'ADN en Adam dont on a hérité. Nous sommes des êtres religieux. C'est juste quand on marche par l'esprit, simplement, c'est juste quand on se laisse guider par les paroles du Seigneur, ses conseils, parfois ses ordres, qu'on pratique la vie normale chrétienne. Pour ceux qui ont lu le bouquin de Watchman, c'est un très bon livre d'ailleurs. La vie normale chrétienne. C'est quand on marche par l'esprit. Mais quand on marche en esprit religieux, on ne marche pas par l'esprit. Alors, bref, l'homme religieux, des fois, il pense qu'il marche par la foi, alors qu'on marche par la vue. Hein ? Et l'homme religieux, il est souvent, très souvent tenté de faire, soi-disant pour Dieu, ce qu'il devrait faire pour son prochain. Hein ? Ce phénomène, c'est tellement inhérent à l'humanité que Jésus, il va le donner à toutes les religions, en fin de compte. Jésus, il va donner un exemple dans Marc. Il va rappeler le cas du corban. Vous savez ce que c'est le corban ? Voilà, c'est l'offrande à Dieu. Bon, on va le lire. Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Déjà. Mais vous, vous dites, « Si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites d'autres choses semblables. » Le corban, là, c'est quoi ? Ça consistait, c'était l'offrande qu'on donnait au temple. C'était quelque chose qui avait été rajouté par les hommes. On ne trouvait pas ça dans la loi de Moïse. Et on donnait à Dieu, super, on donnait à Dieu ce qui revenait aux parents. On peut aller jusque-là. Mais Jésus, il condamne cette attitude. Pour lui, le temple, les rites, la religion, ça passe après le prochain. Ça passe après l'autre. L'homme religieux aussi, il est tenté de rejeter la société. Hein ? Alors, dans certains cas, il va se réfugier dans la solitude, la cèse, la contemplation. Mais aussi, il peut se réfugier dans le ministère. Il peut se réfugier dans le service, la fonction, la mission. On peut retrouver un esprit religieux dans beaucoup, beaucoup d'endroits qui ne sembleraient pas y être. Donc, personne n'est à l'abri. Ça prend toutes les formes qu'on peut imaginer. Alors, bien sûr, vouloir servir le Seigneur, c'est une bonne chose. Venez pas à la fin me dire que c'est, je dis l'inverse. Mais le prochain, ce doit être notre réflexe, notre premier réflexe, hein, notre premier souci. Je vous donne un exemple, enfin deux, mais un d'abord. Il y a longtemps, on allait évangéliser sur la place de la Comédie. Mais il y a longtemps. Hein. Je vais boire un coup. Préparez-vous. Voilà, dans ma jeunesse. Donc, on allait évangéliser. On y allait à une quinzaine, vingtaine sur la Comédie. Bon, quand j'y pense, quand même, c'était bien. Hein. On était inconscients, insouciants. Mais enfin, en tout cas, on se régalait. Mais, voilà. Je me souviens qu'il y avait un gars, un monsieur, un jeune homme à l'époque, qui venait chaque fois avec nous, c'était super, vraiment, voilà. Mais chaque fois qu'il venait avec nous, ça voulait dire une chose. Lui, contrairement à nous, il était marié. Et ils avaient deux bébés. Pas un, deux. C'était pas des jumeaux, hein, c'était genre 14, 15 mois, enfin bref, très court. Et en plus, sur un des deux, il y en avait un, il était difficile. Il pleurait pas tout le temps, mais j'y étais pas. Hein. C'était pas chez moi. Hein. Mais il pleurait souvent, en tout cas. Donc c'était difficile. Et on voyait cette, j'allais dire, pauvre fille, non, n'exagérons pas, mais on la voyait fatiguée, épuisée. Et puis un jour, je me rappelle, je crois que c'est moi-même, mais des fois, je dis à cette personne, pas à la fille, mais au gars, je lui dis, mais ce serait pas bien d'alterner un peu ? Elle aime évangéliser, elle est fatiguée, ou des fois peut-être c'est bien de rester avec elle. Et là, il m'a répondu qu'il allait servir le Seigneur. Il servait le Seigneur, il allait évangéliser. Qu'est-ce que vous voulez répondre à quelqu'un qui vous dit ça ? C'est intouchable, il a mis son dogme, c'est fini. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire ? Ben non, il y a des choses plus importantes, je sers le Seigneur. Voilà. Comment ça a fini cette histoire ? Eh ben, à votre avis ? Eh oui, le divorce. Le divorce, bien sûr. Bien sûr, parce qu'à un moment donné, la pauvre fille a arrêté d'être pauvre. Et voilà. Bref, c'est, vous voyez, l'idée, c'est des fois, on veut mettre Dieu, mais en fin de compte, le Seigneur peut-être nous demande autre chose à mettre en avant. Le prochain. Là, en l'occurrence, c'était vraiment son prochain profond, quoi. Ou une autre fois, je l'ai raconté, mais c'est pas grave. Watchmani, donc le fameux Watchmani, il est très jeune et Il a organisé une campagne d'évangélisation. Le Seigneur lui a dit qu'il y aurait des centaines de conversions, etc. Et au moment où il doit sortir, ses parents lui disent non. Et là, il se retrouve confronté avec « Je fais pour Dieu, Dieu m'a mis à cœur cette soirée d'évangélisation, il va avoir des conversions. » Et mes parents me disent non, je suis mineur, j'obéis à mes parents. Deux attitudes. Watchman choisit la bonne, il obéit à ses parents. Il ne va pas évangéliser, mais après il écrit qu'il a compris un principe, c'est que Dieu n'a pas besoin de lui s'il veut que des gens viennent à son salut. Voilà. Là aussi, je trouve que c'est assez parlant. Hein ? Donc l'homme religieux, il est souvent tenté de faire plus et mieux que ce que Dieu lui demande. Ça aussi, c'est une caractéristique. Et encore une fois, je stigmatise personne. Nous sommes tous des hommes religieux. Et des femmes, hein, on ne va pas les oublier. Nous sommes des hommes et des femmes religieux. Alors, on est souvent tenté de faire mieux que ce que Dieu demande. Ça aussi, c'est un autre travers qu'on a. Hein, parce qu'on veut montrer aux autres. Hein, on veut montrer à Dieu. Alors, pour se convaincre, on veut être fidèle, on veut être, parce qu'on mérite les bénédictions d'en haut, parce que nous, on bosse pour le Seigneur. Cette attitude, vous savez ce que c'est ça ? C'est la porte ouverte à l'intégrisme. Il n'y a pas d'autre terme. C'est la porte ouverte à l'intégrisme. C'est jamais la volonté de Dieu qui est accomplie, c'est la volonté de l'homme, quand on est dans cette attitude de cœur. Hein ? Et souvent, en plus, quand on est dans cette attitude de cœur, on fait des choses. On croit faire des choses pour Dieu, mais quand on pense faire pour Dieu, on fait contre l'homme. C'est rarement... Ça marche ensemble. Hein. Parce que si vous voulez marcher d'une certaine manière avec Dieu, par exemple, si vous voulez prier 12 fois par jour, si vous voulez jeûner, si vous voulez lire la parole, si vous voulez étudier, si vous voulez... Tout ça, c'est formidable. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais ce qui n'est jamais bien, jamais bon, c'est quoi ? C'est d'en faire un dogme. C'est d'en faire un critère de sainteté, je vaux mieux que les autres, et c'est de vouloir l'imposer aux autres. Chaque fois qu'on veut imposer quelque chose aux autres, on devient un homme religieux. Et quand on est religieux, vous remarquerez, l'état de notre cœur, il est dur, il s'endurcit. Moi, je suis le Seigneur, tant pis pour les autres. Où c'est biblique ça ? Trouvez-moi un seul exemple où Jésus va avoir cette attitude. En plus, là, pour le coup, entre guillemets, le meilleur des chrétiens, c'est Jésus, hein, quand même. Il est un peu meilleur que nous, quoi. Bon, voilà. Il n'a rien. Au contraire, il va voir les autres, il va voir les plus faibles. Hein. Voilà. Donc, jamais l'imposer aux autres. Hein. Parce que quand on fait ça, vous savez ce qu'on fait ? On sépare Dieu des êtres humains. Hein. L'œuvre du péché, c'est quoi ? La division. Donc vous voyez, des fois on pense bien faire, on fait mal. On fait très mal même. Hein ? Des fois, j'allais dire, nous tous, moi, comme ça, ça ne gênera personne, on a pu dégoûter des personnes de le rencontrer par notre attitude. Hein ? Peut-être qu'on a imposé des choses à quelqu'un et puis ben, au final, son cœur n'était pas prêt. Et puis il est parti dans la nature. Donc, restons vraiment dans cet esprit. Et puis, en fait, pourquoi ? L'action du Seigneur, elle a toujours pour but, toujours, 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 n'oubliez jamais ça, d'amener la divinité et l'humanité à la communion. C'est vraiment ça. Jésus, c'est Dieu, mais Jésus, c'est un homme. C'est vraiment cette image. Jésus, c'est le lien de rencontre, c'est ce qui fait la rencontre l'un avec l'autre. Hein ? Jésus, c'est le chemin, vous savez ? Les disciples, au début, dans les actes, ils étaient dans la voie, ils suivaient la voie, le chemin. Hein ? Jésus, c'est ce chemin qui relie Dieu aux êtres humains. C'est pourquoi le prochain, ben c'est lui, c'est Jésus le prochain de chacun. Hein ? Chaque fois dans notre vie chrétienne que l'exercice de notre foi, autant doctrinal que pratique, tend à dissocier, à séparer le prochain du Seigneur, et ben quand on est là, on est pas ses disciples et on ne fait pas partie de ses enfants. Là, on est avec les boucs. Chaque fois, on se sépare. Hein? Voilà pourquoi c'est dangereux de dire « je fais cela pour Dieu ». Ça, c'est une expression aussi. « Je fais cela pour Dieu ». Des fois, c'est vrai. Attention, on ne va pas non plus s'interdire. Hein? Mais souvent, quand on dit cela trop fortement, c'est qu'on oublie de vivre pour les hommes et les femmes. On oublie de voir les besoins de notre prochain. Parce qu'on fait cela pour Dieu. Peu importe les autres. Ça ne marche pas comme ça. Alors, c'est une expression qui permet souvent d'avoir bonne conscience. Hein? Ça nous permet de ne pas aimer le prochain, en fin de compte. Hein? Comment je me justifie? Ben, je fais cela pour Dieu. Je fais cela pour le Seigneur. Hein? Mais pour le Seigneur, je suis désolé, c'est impossible de dissocier Dieu du prochain. Hein? Pourquoi? Parce que c'est en servant les hommes qu'on sert Dieu. C'est en servant les hommes qu'on sert Dieu. Hein? Parce que quand on y réfléchit, quand on se pose devant le Seigneur, quand vraiment on se met devant le Seigneur, là, vous savez, dans ce qu'on appelle vraiment un temps qu'on met à part, le matin, l'après-midi, peu importe, ça veut dire quoi? Faire quelque chose pour Dieu? Franchement, ça veut dire quoi? Où c'est écrit? Franchement, est-ce que vous pensez que Dieu, il a besoin de nous? Si juste il reste Dieu et nous, humains, il n'y a pas besoin de nous. Hein. C'est le prochain qui a besoin de nous. C'est notre prochain. Le Seigneur a voulu s'abaisser et nous rendre responsables. Ça, c'est autre chose. Mais il n'a pas besoin de nous s'il veut. Hein? Alors, on a une illustration frappante de ce principe dans l'histoire d'Abel et de Caïn. Ce principe-là. En Genèse 4, verset 8, il est écrit « Caïn attaqua son frère et le tua ». Alors, souvent, on a fait cet acte de Caïn, une action vraiment anti-religieuse. En gros, souvent, on peut penser ça. Caïn a tué son frère parce qu'il ne croyait pas en Dieu, tout simplement. Mais moi, je ne pense pas. Moi, je pense que Caïn, il a tué Abel parce qu'il avait une certaine croyance en Dieu. Il avait une certaine manière de penser Dieu. Et parce que cette croyance s'opposait à la façon dont Dieu se révélait, ben, ça l'a contrarié. Hein? Parce que pour Caïn, et encore une fois, là aussi, je vais bien insister, on est un peu des fois des Caïn quand même. Hein? Pour Caïn, ce Dieu qui est favorable à une offrande plutôt qu'à une autre, ce n'est pas compréhensible. Ça n'a aucun sens. Hein? Alors, il est vrai que dans la parole, le texte ne dit pas précisément pourquoi. C'est d'ailleurs une discussion qui continuera jusqu'à la fin des temps. Pourquoi Dieu a préféré l'offrande d'Abel à celle de Caïn? Alors, on le sait un peu quand même, mais le principe, c'est que l'offrande d'Abel ne reposait pas sur son travail, sur ses œuvres. Donc là, il y a un vrai principe, ne reposait pas sur ses mérites. Et celle de Caïn, c'est le fruit de son travail, qu'il donne avec fierté. Et on sent que Caïn, c'est quand même quelqu'un de sûr. C'est quelqu'un de sûr pour plein de raisons. Juste un petit détail dans le contexte. Les gens à l'époque, vous savez, ils avaient une particularité. Enfin, ils ne mangeaient pas de viande. Donc quelqu'un qui avait des moutons, honnêtement, ça ne servait pas à grand-chose. Quelqu'un qui cultivait un jardin, il assurait la subsistance. Donc on peut voir là déjà une espèce de fierté de la part de Caïn. C'est un homme important. Et puis Abel, au passage, ça veut dire vapeur. Quand votre mère vous a appelé vapeur, elle n'avait pas grande espérance en vous, quoi. Non, mais c'est vrai, hein, c'est un peu vexant, quoi. Caïn, je l'ai obtenu avec l'aide de l'Éternel, Abel, vapeur. En psychologie, il y avait du boulot. Hein. Voilà, il y avait du boulot, mais bon, Abel, le pauvre, il n'a même pas profité. Donc, il est allé avec le Seigneur. Voilà. Donc, on sent que Caïn, c'est quelqu'un de sûr. Alors, sans l'avoir connu personnellement, Caïn, c'est plutôt, il serait d'accord avec la politique du mérite. Donnant-donnant, hein, on l'imagine comme ça. Quand on est amené à calculer pour pour savoir ce qu'on gagne, ce qu'on perd dans une situation. Je pense que là, on pouvait compter sur Caïn, il est présent là. Lui, il est d'accord. Mais quand il est question de grâce divine, de salut par la foi, et qu'en vertu de cette grâce, tout le monde reçoit à la fin, si j'ose dire, le même cadeau, Caïn, il est moins à l'aise avec ça. Hein ? Il y a une autre parabole, je ne sais pas pour vous, mais moi, si elles viennent tous nous toucher, ou alors vraiment vous êtes extraordinaires, c'est la parabole de la dernière heure, vous savez ? Et de la première heure. Quand on est d'accord avec cette parabole, c'est quand même, on est bien en forme, quand même. Physiquement, intellectuellement, intérieurement, spirituellement. Parce que quand même, je pense que chacun de nous, on se dit, bon, c'est super. Si vous êtes ouvrier la dernière heure, c'est génial. Mais si vous êtes celui de la première heure, je ne suis pas sûr que ça vous ferait rire. Hein. Enfin, moi, en tout cas, ça ne me ferait pas rire. Mais c'est vraiment un obstacle. C'est une révélation dans notre justice bien humaine. Cette parabole, pensez-y, chaque fois que vous avez un doute, elle teste vraiment cette compréhension de la grâce de Dieu. Parce que même si c'est une histoire, ben quand même, ça ne nous convient pas, quoi. Et c'est là qu'on voit que le royaume de Dieu, c'est pas maintenant. Sauf quand on est dans l'esprit du Seigneur. Hein? Donc si on revient à Caïn, ben, il ne comprend plus, il est comme nous. Donc lui, ben, combien de fois dans nos vies on a dit « j'ai fait de mon mieux » Combien de fois dans nos vies on a parlé au Seigneur en lui disant « mais tu as vu, tu l'as vu lui ? Moi quand même, je suis mieux. Hein ?» Des fois on se dit que comme si le Seigneur ne savait pas. Des fois on arrive à dire « tu sais peut-être rien sur lui, mais moi je vais te dire. » Des fois on est fou, hein ? Non mais c'est vrai. Bon, je suis fou. Je ne vais pas vous vexer. Voilà. Hein ? Peut-être tu ne sais pas tout sur lui, mais moi je sais. Je vais te dire. Alors Caïn ou nous-mêmes, plutôt que d'avoir à renier notre façon de voir et notre justice, hein, ben plutôt que d'écouter le Seigneur, ben ça va loin là, pour le coup. Là, c'est moins marrant. Il tue son frère. Et là, ce n'est pas une métaphore. Hein. Mais nous, on tue tous nos frères quand nous cessons de les aimer. C'est exactement pareil. Exactement. Parce que Caïn, cet empêcheur de tourner en rond, qui fait croire que Dieu ne fait pas de différence, ben il veut le tuer, parce que ça ne lui convient pas. Ça ne convient pas à sa religion. Caïn a tué Abel, parce que pour lui, Dieu prime toujours sur le prochain. Vous voyez ? Et c'est ce que je voulais en venir au début. La croyance de Caïn, elle est désincarnée. Hein ? Sa foi, c'est un ensemble de doctrines, d'idées, de concepts, de principes, sur lequel il ne peut pas tergiverser. Il ne veut même pas en discuter. Hein ? Parce que Caïn, s'il discute sur sa foi, il risque de la perdre, sa foi. Et il ne veut pas perdre sa foi. Et ça, c'est dans nos vies, ça nous arrive aussi. C'est pour les mêmes raisons que des hommes ont tué Jésus. C'est exactement pareil. Hein ? Parce que Jésus faisait trop cas des individus. Trop cas. Et puis en plus, lui, le pire, c'est qu'il faisait cas des individus peu recommandables. Prostituées, collecteurs d'impôts, les étrangers, les faibles du monde, les gens que personne ne voyait. Quand l'aveugle l'interpelle dans le chemin, en gros, les disciples lui disent « laisse-le tranquille ». Quoi. Puis Jésus il revient, parce que pour lui, c'est important, parce que c'est son prochain. Il ne va pas laisser son prochain, et il va le guérir. Voilà. Donc pour finir, et en revenant à cette parabole, je voudrais préciser deux points qui me semblent très importants. Donc le premier, c'est que dans cette parabole, il y a deux classes d'individus, hein, les boucs et les brebis. Je l'ai dit un peu au début, mais je veux bien le rappeler quand même, parce que pour s'enlever une idée aussi, un concept de ce que dit ce texte, il n'est pas dit que les boucs ont été moins pieux que les brebis, premièrement. À aucun moment c'est dit, vous pourrez vérifier. Il n'est pas dit qu'ils n'avaient pas une bonne doctrine. Il n'est pas dit qu'ils ont fait moins d'offrandes. Il n'est pas dit qu'ils ont pactisé avec le monde. Il n'est pas dit que c'était des gens immoraux. Il n'est rien dit de tout ça, ou malhonnêtes, ou quoi que ce soit. Non. Le jugement, revu et corrigé par Jésus, il ne tranche en rien sur ces domaines. En rien. Par contre, et c'est là le thème, il est dit que les boucs, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils n'ont pas assisté les plus petits. Ils n'ont pas assisté les faibles. Et si vous le traduisez, ça veut dire quoi ? Ils n'ont pas aimé. Les boucs, ils n'ont pas aimé. C'est tout. Hein ? Voilà. C'est l'amour qui fait la différence. C'est l'amour qui triomphe du jugement. Et pensez à ça toujours. Si le Seigneur, aujourd'hui, il était sur la terre, là, maintenant, quel zèle, quel empressement nous mettrions à le recevoir, à le servir, à satisfaire ses besoins. Le Seigneur, le roi des rois serait là. Évidemment, on serait tous fous. C'est le sujet de cette parabole. Voilà. Parce que ces occasions, on les a tous les jours. Tous les jours, on a ces occasions de servir. Hein ? Des dons, hospitalité, accueil pour l'étranger, visite, hein, aider. Hein. Parce que n'oubliez jamais que tout ce que vous faites par amour pour quelqu'un, c'est pour le Seigneur que vous le faites. Et à l'inverse, tout ce que vous ne faites pas, c'est que vous le refusez au Seigneur. Vous savez, on a toujours cette idée, c'est bien de temps en temps de se dire que Jésus est là, il est là. Tous les jours de ma vie, il est avec moi, il est à côté de moi. Ça change la perspective. Jésus ne s'est jamais détourné de personne. Donc il nous défie de ne pas nous détourner de l'autre. L'autre, le faible, ce n'est pas forcément que le miséreux. Le faible, c'est chacun de nous. Des fois, on est faible et on a besoin que quelqu'un nous accompagne, nous aide. Quelqu'un prie pour nous. Ne nous détournons pas. Je crois que c'est ça le message. Hein ? Alors il ne s'agit pas, j'espère, de culpabiliser, hein, de se dire je n'ai rien fait, malheur à moi. Non, il s'agit de décider, il s'agit de considérer que chaque fois que j'ai l'occasion d'aimer, de ne pas me détourner de mon prochain. Hein. Parce que s'en détourner, je l'ai dit mais je le redis, c'est se détourner du Seigneur, tout simplement. Hein. Et la bonne nouvelle, c'est que des occasions, vous en aurez plein. Plein, tous les jours. Tous les jours, on a plein d'occasions. Et le deuxième point, et je crois qu'il est important aussi, si on restitue cette parabole, ce thème, dans le contexte, c'est juste avant la crucifixion. C'est juste avant la passion. Hein ? C'est le combat, hein, où il va donner sa vie pour chacun. Et si vous le reprenez comme ça, regardez bien. Au moment de quitter le monde, celui qui nous fait confiance, parce que dans la parabole des talents, il nous fait confiance. Il est dit qu'il donne des talents à chacun. Donc, il met sa confiance en nous. Hein. Dans celle-ci, vous savez ce qu'il fait, le Seigneur Jésus ? Il nous confie ce qu'il a de plus précieux. Vous savez ce que c'est, ce qu'il a de plus précieux ? C'est l'humanité. Pouf, nos épaules tombent, là. Quel fardeau ! Le Seigneur Jésus, il nous confie les hommes. C'est pas rien. Hein. On est des veilleurs. En fait, c'est ça que j'ai compris. On est des veilleurs et on a individuellement, collectivement, à veiller les uns sur les autres. Car tour à tour, comme je l'ai dit aussi, on est faible. Tour à tour, on est fort. Et quand on est fort, on peut aider le faible. Et quand on est faible, on est content que le fort nous aide. Qui sont des notions très relatives, hein, vous le comprendrez. Donc, ratons jamais ce moment où le Seigneur touche notre cœur. Il nous met une parole. Hein. Tout à l'heure, quand on priait, vraiment pour moi, hein, je l'ai vécu comme ça. J'ai vraiment senti la présence de Dieu. Voilà, quand il y avait la louange. Et j'ai eu une parole, par exemple. C'était pour quelqu'un, j'irai lui dire. Mais 20 fois, elle est revenue. Vous savez ? Et le Seigneur disait à cette personne qu'il voulait renouveler son espérance. Ne pas le dire, ce serait un scandale. On reçoit tous des paroles. Parce que vous avez connu la vérité vous rendra libre, et nul ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par l'Esprit du Seigneur. Donc chaque fois que quelqu'un ici dit que Jésus-Christ est Seigneur, il a reçu l'Esprit du Seigneur, il peut parler par l'Esprit. Et il peut recevoir des paroles et les donner à son frère, à sa sœur qui est faible à ce moment-là, ou allez savoir, qu'est-ce que ça peut faire ? Ça peut changer sa vie, tout simplement. Voilà. Donc je voudrais finir juste en priant et On commence en priant, on finit en priant. Amen. Seigneur Jésus, merci de parler à nos cœurs, merci de toucher nos cœurs. Ce matin, merci parce qu'on veut être pas dans l'humanisme, Seigneur Jésus, on veut être dans la communion. On veut pas être dans la pitié, on veut être dans l'amour, Seigneur Jésus. Merci de relever nos cœurs, merci de relever ceux qui sont faibles, Seigneur Jésus. Merci Père de toucher, de bénir ces paroles. Et en transformant nos vies, tu transformes ton Église, Seigneur Jésus. Tu transformes tout projet. Tu y mets ta vie, Seigneur. Et tu mets toujours ta vie en abondance. Amen. Merci Père. Amen. Soyez bénis.